Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado d'LNH.com. Nicolas Duchamp, je vous parle en ce tout début de 30 mai, si je peux dire. On est à peine une heure là, dépassé minuit. Et justement, quelques heures après la défaite des Canadiens de Montréal par la marque de 6-1, qui signifie que chez les Canadiens, c'est la fin. Éliminé en 5 matchs par les Hurricanes de la Caroline en finale de l'Est. Les Hurricanes, soyons francs, qui n'auront pas laissé grand chance aux Canadiens à partir du match numéro 2 jusqu'à la fin de la série. Là, ça a été... Le système des Hurricanes aura été trop pour le tricolore qui... Écoutez, on avait visiblement plus d'énergie. Mais bon, quand même du positif. Ça, c'est une belle saison là, chez les Canadiens. On va en parler aujourd'hui là, justement avec les collègues Jean-François Chaumont et Guillaume Lepage là, qui sortent tout juste du Lenovo Center. Donc, vous allez pouvoir lire leur texte sur LNH.com quand vous allez vous lever, j'imagine, quand vous allez écouter ça parce que, justement, elle a tout de mettre ça en onde. Là, on va être samedi matin. Mais bon, et oui, et comme je dis, les collègues ben, qui vont continuer la couverture parce que la finale de Coupe Stanley qui va s'amorcer mardi du côté de Raleigh, Golden Knights de Vegas contre les Hurricanes. Deux équipes qui ont eu un parcours éliminatoire quand même assez linéaire, assez sans trop d'anicroche, si je peux dire. Les Golden Knights, on s'attendait pourtant quand même à une série assez relevée, assez ardue, si je peux dire, contre l'Avalanche du Colorado. Mais bon, blessure à Nathan McKinnon, blessure à Cale Makar. On a manqué de ressources du côté de l'Avalanche. Et bien, les Golden Knights qui, eux, justement, c'est un train depuis l'arrivée de John Tortorella derrière le banc, donc qui s'en vont en finale. Les deux concessions qui vont tenter de remporter la deuxième Coupe Stanley de leur existence. Donc, ça va s'amorcer, comme je disais, mardi. Donc, nous, on espère pouvoir vous offrir un balado aperçu de finale là, dans les prochains jours. Mais la réalité, c'est que là, les choses se précipitent un peu. Les gars, comme je disais, qui vont être de retour à Raleigh. Là, il y a du voyagement, tout ça, d'ici pour lundi, pour le Media Day, la journée des médias, je vais dire en français. Mais en même temps, il y a aussi la séance d'évaluation des espoirs qui s'amorce du côté de Buffalo. Et c'est moi qui vais y être. Donc, vous allez pouvoir lire les textes sur en vue du prochain repêchage sur LNH.com dans les prochains jours. Mais justement, beaucoup de travail pour un peu tout le monde. Donc, on va essayer de trouver un trou. Je veux juste pas vous le promettre, là, mais on va essayer de trouver un trou puis vous offrir un aperçu de la finale. Puis sinon, ben, écoutez, on va être là pendant la finale quand même. Et du côté de Buffalo, ben, on va avoir un balado, tout ça, qui va être aussi disponible pour mettre la table pour le repêchage qui va aussi se tenir à Buffalo. Donc, populaire Buffalo. Retour en série, le combine, la séance d'évaluation des espoirs et le repêchage cette année. Donc, ça roule à Buffalo présentement. Justement, si vous voulez être certain de ne pas rater le moindre balado, ben suivez-nous, abonnez-vous. On est disponible sur toutes les plateformes d'écoute à peu près qui peuvent exister. Faites une recherche de la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Si vous voulez nous voir aussi en vidéo, ben on est disponible sur Spotify et aussi sur le site dlnh.com en vidéo. Avant d'amorcer cet épisode, ben écoutez, on veut, toute l'équipe de LNH.com, là, on veut offrir nos sympathies à toute la famille de Claude Lemieux, vraiment ses proches, tous les amateurs de hockey aussi qui avaient Claude Lemieux près du cœur. Ben écoutez, un décès qu'on ne voit jamais venir, hein, bien évidemment, ces choses-là, mais qui laisse des traces et au même titre que Claude Lemieux aura eu une carrière vraiment notable dans la Ligue nationale de hockey, surtout en séries éliminatoires, vraiment laissé sa marque. Fait partie d'un club select, quand même, hein, 4 Coupes Stanley à notre époque, c'est plutôt rare maintenant. Qu'il va avoir aussi des clubs select au niveau des points, mais aussi des minutes de pénalité. Donc, tout un joueur, Claude Lemieux. Donc, vraiment, on offre toutes nos sympathies à tous ses proches. Et aussi, ben, écoutez, si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin d'aide, ben, n'hésitez pas à en demander de l'aide, là. Ça ne peut qu'être positif. Alors, on lance l'émission. Je les accueille avec moi, comme je vous disais, tout droit sorti du Lenovo Center. On les rejoint dans leur chambre d'hôtel pour quelques heures parce qu'ils vont être de retour. Leur vol est dans pas très long. Guillaume Lepage, salut Guillaume.
Salut Nick.
Et Jean-François Chaumont, salut GF.
Salut Nicolas.
Écoutez les gars, merci d'être là parce que votre nuit va être assez courte. Merci. Quoi, changement de vol ou...
Oui, on avait un beau vol direct Raleigh-Montréal, puis on a reçu un message ce matin pendant la conférence de presse de Josh Anderson, je pense que c'est Mike Matheson qui nous parlait, disant problème d'équipage, vol complètement annulé. Donc, bonsoir, vol avec escale, départ, 6h15 du matin. Donc, dans quelques heures, nous serons à l'aéroport de Raleigh.
Dans même pas 5 heures. Donc. Ouais. Hey boy, OK. Merci, merci encore plus d'être là. J'imagine qu'il y a eu un sac collectif dans le vestiaire quand ça a été
confirmé.
Quand ça a été annoncé là, avec tous les journalistes. Les gars, c'est une saison qui prend fin pour les Canadiens. On va revenir un peu sur le match. Après ça, on va tracer vraiment un bilan de cette série, cette saison-là surtout. Mais bon, défaite de 6-1 et il n'y avait juste plus rien dans le réservoir d'énergie canadien. Est-ce que c'est ce qu'on trace un peu comme bilan?
Bon, on avait un peu le sentiment que c'est le jour de la marmotte. Là. Ça ressemblait drôlement au match numéro 4. Les Hurricanes qui marquent encore 3 buts en première période. La chaîne qui débarque assez rapidement. Finalement, c'est une victoire convaincante de 6-1. Si tu regardes les deux derniers matchs, on parle de 10-1 au pointage final. Les joueurs n'ont pas voulu se servir de l'excuse, de la fatigue. Martin Saint-Louis aussi a repoussé ça du revers de la main. On lui a posé la question, est-ce que ça devient plus difficile de faire les ajustements stratégiques? Quand probablement qu'au niveau mental et physique, l'équipe est usée à la corde. Il a dit que non, c'était pas ça le problème. Mais on a revu les mêmes bobos, incapables de sortir de son territoire. La première présence, la rondelle tombe sur la glace, boum, un 2 contre 1, Mike Matheson qui s'avance un petit peu trop. De mémoire, je pense que c'est Jackson Blake qui obtient la chance de marquer. Finalement, on a attendu quelques minutes, mais ça s'est encore produit avant le coup de la 10e minute, un premier but des Hurricanes. Là, ça a été quoi? 3 buts en 7 minutes et des poussières. Mais tu sais, il faut reconnaître la meilleure équipe a gagné cette série. Les Hurricanes dominaient depuis le match numéro 2. Mais par miracle, les matchs 2 et 3, il y a quand même eu une prolongation. Mais là, la crème a fini par remonter à la surface. Puis il n'y avait tout simplement pas de débat dans ce 5e match-là. Après 20 minutes, tu savais que les Hurricanes étaient pour sortir vainqueurs.
Oui, puis j'ai l'impression que si les Canadiens avaient voulu une chance, parce que comme tu dis, là, ça fait quoi, 3 matchs, là, ça ressemble à des copier-coller un peu, là, peu importe ce qu'on tente chez les Canadiens. Puis Martin Saint-Louis est quand même resté conservateur au niveau de ses tentatives, mais si on avait gagné, dans la situation où étaient les Hurricanes, où on était incapable de gagner année après année en finale de l'Est, si tu avais gagné le 2e match en prolongation, peut-être que là, on aurait pu leur jouer dans la tête, mais... Il y a eu un changement de rythme qui s'est opéré dans le 2e match puis qui a juste fait s'accélérer aussi par la suite.
Ouais, puis tu sais, si on parle, c'était une équipe qui avait joué 8 matchs en 32 jours, je pense, avant le début de la série. Donc, une équipe qui joue un style aussi agressif que les Hurricanes, ce repos-là a fini par faire la différence. C'est non seulement le Canadien était fatigué, mais les Hurricanes étaient... en pleine santé, en pleine forme. Je pense que la disparité à ce niveau-là, c'était vraiment... on l'a vu dans les derniers matchs. Puis, tu sais, avant le début de la série, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. La rouille qui joue contre les Hurricanes au premier match, puis après ça, le rouleau compresseur se met en marche. Puis, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise. Pour ma part, les surprises, ça a été les prolongations. Le Canadien a quand même poussé 2 matchs en prolongation. Ça aurait fait 3-0 après les 3 premiers matchs, là, mais ça aurait été complètement... Ça aurait été des vols, là, je pense. On peut tous l'admettre là, que le Canadien ne méritait pas vraiment ces 2 matchs-là, mais ce sont des leçons que ce jeune groupe-là va mettre dans son bagage. Oui, il y avait de la déception chez le Canadien, mais il y avait personne en larmes ou en pleurs. Tu sais, on a eu le temps de faire le deuil, je pense, d'abord, parce que tu sais, depuis les derniers matchs, je pense qu'on voyait la fin arriver. Puis, première période, on a eu la réponse aujourd'hui. Donc, tu as 2 périodes un peu pour commencer à digérer le fait que le parcours est terminé. Donc, oui, il y a de la déception, mais il n'y avait pas, c'est ça, c'était pas de la grande tristesse. Je pense qu'on le voyait venir. Puis, on avait déjà le regard tourné vers l'an prochain. Moi, ce qui m'a marqué, c'est Lane Hutson. Puis, j'ai commencé mon texte de cette façon-là ce soir, qui dit on a vécu des beaux moments, mais j'ai déjà hâte de recommencer le parcours. Tu sais, lui, on le sait, c'est le premier sur la glace à l'entraînement. Il saute pas une journée sans sauter sur la patinoire. Donc, lui va se retrouver devant rien demain matin, mais pense déjà à sa préparation estivale puis à ce qui s'en vient l'an prochain, parce que avec ce qu'on a accompli du côté des Canadiens cette année, en saison et en séries éliminatoires, ben les attentes vont être d'autant plus grandes l'an prochain, puis il va falloir que le noyau de ce groupe-là, mené par Lane Hutson, il va falloir qu'il soit à la hauteur dès le premier match l'an prochain.
Oui, puis il y en a un qui était à la hauteur, malgré toute cette série-là, malgré tout ce qu'il a pu avoir comme caoutchouc. Jacob Debèche a été le seul, ça aurait pas pu finir en 4 parce que le premier match était complètement à l'avantage des Canadiens pour les raisons qu'on connaît, la rouille, tout ça. Mais Jacob Debèche a été de loin le joueur le plus utile des séries éliminatoires des Canadiens. À quel point c'est encourageant de voir ce gars-là, de voir le mental de ce gars-là, voir, tu sais, on en a parlé, là, mais même dans la défaite, même, tu sais, c'était plus facile dans les autres rondes. Quand tu gagnes, c'est le fun d'avoir le sourire d'en face. Mais même dans la défaite, même dans ce qu'il faisait face dans cette série-là, il s'est tenu debout jusqu'à la fin, là.
Non, il n'y a aucun doute. Debèche a été très, très bon. Puis même dans cette finale de l'Est, c'est Frédéric Anderson qui sort avec les 4 victoires, mais Anderson n'a pas eu à voler un seul match. Je pense qu'il était très battable comme gardien. Debèche à Goa était en confiance. Il était fort mentalement. Tu sais, il a quand même arraché 2 victoires dans les 7e matchs sur des patinoires adverses à Tampa, à Buffalo. Contre les Hurricanes, Guillaume en a parlé, mais les matchs 2 et 3, si tu retires Jacob Debèche de l'équation, bien, il n'y a tout simplement pas de prolongation. Il a tenu cette équipe-là sur ses épaules. Oui, je serais d'accord pour dire que Debèche est le joueur le plus utile du parcours du tricolore. Mais pour garder aussi Lane Hutson pas trop loin derrière, je trouve que Lane Hutson a eu de très bonnes séries. Obtient une passe ce soir, finit avec quoi? Avec 16 points en 19 matchs. Tu sais, Hutson a joué avec un immense cœur du début à la fin. Là, s'il y en a un qui prenait difficilement les défaites, c'est bien Lane Hutson. Puis j'aimais quand Guillaume disait tantôt qu'il a commencé son texte justement avec les propos d'Hutson, que le regard tourné vers l'avenir. Ben moi, le début de mon texte ce soir, c'était justement, tu sais, dans le vestiaire du CH, là, j'ai souvent couvert des éliminations, tu rentres, puis t'as des gars qui essuient des larmes, puis ça faisait quand même un petit moment que tu sentais qu'il y avait eu le temps de mûrir cette défaite-là à venir. Mais je connais aucun athlète qui va dire « on n'y croit plus ». Il y a certains médias qui peuvent dire qu'on a eu un scoop là, à l'interne, ils y croient encore. Ça, c'est juste la logique. Là. Tous les joueurs vont dire qu'ils y croient encore, mais je pense que l'usure mentale, physique, a fini par rattraper cette équipe-là. Suzuki l'a mentionné du bout des lèvres. Il dit peut-être qu'on s'est fait rattraper par rapport au fait que c'était plus difficile. Mais tu sais, quand on parlait de leçons, il y a Alexandre Carrier, Philippe Dano. Philippe Dano et Mike Matheson, je crois, les deux ont dit, bien, si on a une petite leçon à retenir, quand on a une chance de gagner un 6e match à la maison, terminer une série, il faut en profiter. Ça aurait donné quelques journées de plus de congés pour guérir blessures, etc., repos. C'est pas arrivé, mais tu sais, si tu regardes le verre à moitié plein, on parle de la plus jeune équipe de la Ligue nationale qui a réussi à atteindre le carré d'as. Juste ça, c'est déjà très, très, très bien pour le Canadien. Puis il y avait devant eux une équipe expérimentée. Là. Rod Brind'Amour, c'était 3 fois dans les 7 dernières saisons que les Hurricanes se sont cognés le nez en finale d'association.
Eux autres, ils en ont eu des larmes là, dans les dernières années. Là.
Eux, ils en ont eu des larmes, mais je pense que même eux n'avaient pas le temps de pleurer aussi parce que c'était des balayages rapides contre les Hurricanes. Mais tu sais, ça rentrait dans la grande catégorie contre les Hurricanes, contre les Panthers.
Si tu parles des Panthers, c'est un style de jeu que les Canadiens ne pouvaient pas jouer, là, en plus. Là.
Non. Les Canadiens, une équipe différente. Mais tu sais, j'écoutais Lane Hutson aussi qui disait il n'y a pas, puis Martin Saint-Louis l'a dit aussi après le match, l'identité du Canadien va rester l'identité propre au CH. Je ne pense pas qu'ils vont vouloir tout métamorphoser. Ils vont peut-être ajouter quelques petites pièces d'expérience à gauche, à droite. Un deuxième centre aussi serait quand même pas de refus du côté du CH. Donc, t'as vu quelques bobos, mais ce parcours-là reste hyper encourageant. Je pense qu'il faut que tu prennes un petit pas de recul. Oui, la défaite en 5 matchs, c'est une déception probablement contre les Hurricanes, mais la meilleure équipe a gagné. Et le Canadien a réussi à sortir. C'est son tableau de chasse. Ils ont éliminé le Lightning de Tampa Bay, les Sabres de Buffalo, 2 grosses formations. Pour une jeune équipe, tu n'as pas à rougir d'un tel parcours éliminatoire.
Il y a des points. Tu as parlé de Mike Matheson. Je ne sais plus si c'est Matheson ou Dano qui parlait de ça. Puis oui, tu disais, il faut apprendre à gagner. des matchs numéro 6 gagnés en 6, puis même en 5, parce qu'il y a eu des fois où on avait la possibilité de faire gagner, de faire passer une série à 3-1, puis on n'a pas réussi. L'autre point qu'on n'a pas réussi, c'est de gagner en séries éliminatoires à la maison. Puis je riais parce que je me suis rendu compte, je me suis rappelé le parcours de 2021, tu sais, puis j'ai fait, pourtant, les Canadiens à domicile, comment ça avait été? Ça avait été vide. Hein? Souvenez-vous, je veux dire, même les joueurs qui étaient là et qui sont encore là aujourd'hui jouaient devant un aréna qui était à moitié vide à cause de la COVID, puis aux trois quarts vide, puis je me souviens plus qu'il y avait combien de monde. Là, ça, c'est un des gros points qu'on va retenir. L'instinct du tueur, s'habituer à jouer à la maison. L'année dernière, contre les Capitals, on n'a pas gagné de match à domicile, hein, si je ne me trompe pas.
Oui, match numéro 3. Le troisième,
si je me souviens bien, tu as raison. Fait que troisième, on avait gagné. C'est vraiment de développer, mais ça c'est du... Ça va se faire avec le temps. Je veux dire, jouer à Montréal, aussi, cette pression-là. Là.
C'est aussi d'aligner les victoires en série. Le Canadien l'a fait, je pense, contre Buffalo. On a repris le contrôle de la série là, après avoir laissé filer le premier match. Puis, dans un de ses discours, après un match, Martin Saint-Louis, je pense que c'est après le septième match contre le Lightning, je crois, qui a dit, ou contre les Sabres, en tout cas, quand tu gagnes deux matchs de suite, tu prends le contrôle d'une série. Puis, le Canadien, jusqu'à ce moment-là, n'a pas aligné deux victoires de suite. Contre le Lightning, ça a été victoire-défaite, victoire-défaite, victoire-défaite. Les Sabres, il y a eu ces deux victoires-là, mais après ça, on a alterné victoire et défaite. Là, ça commence à être difficile de toujours... On a parlé des vagues, là, des hauts et des bas, mais là, c'est les hauts de la victoire. Tout de suite après, t'es pas capable d'aller chercher un rythme dans ces séries-là. Les Hurricanes, on s'entend, hein, ils ont perdu seulement un match dans ce parcours-là jusqu'à maintenant. Ils sont habitués à aligner les victoires, puis quand cette équipe-là se met en marche, ben c'est dur à arrêter. Puis là, on voit la différence entre une équipe à maturité puis une équipe qui en est au tout début de son parcours. Puis je pense que, tu sais, on parlait de l'émotion dans le vestiaire des Canadiens. Je pense qu'il y a un sentiment de... On peut se consoler en se disant que c'est on n'était pas supposé être ici. Puis c'est probablement le premier long parcours de plusieurs. Ça, il n'y a aucune garantie, ça, c'est certain. Hein, il peut arriver des blessés, il peut arriver toutes sortes de situations qui vont faire en sorte que le Canadien, peut-être, ne remettra jamais les pieds en finale de l'Est avec ce noyau-là, mais les joueurs ne pensent pas comme ça. Les joueurs sont optimistes, puis on a vu de leur côté qu'est-ce qu'ils sont capables d'accomplir malgré les embûches dans ce parcours-là. Fait que, il y avait aussi ce sentiment-là là, que c'était le début de quelque chose et non la fin d'une fenêtre. Là. La fenêtre vient de s'ouvrir. On a déjà appris, on a déjà tiré beaucoup, beaucoup de leçons de ce long parcours-là. Écoute, c'est 101 matchs avec la saison, sans compter les matchs préparatoires. Je pense que l'an dernier, j'y vais de mémoire, les Panthers ont gagné la Coupe Stanley après 103 matchs ou 104 matchs. Donc, oui, le parcours s'arrête avant la finale, mais en termes d'expérience, en termes de millage et tout ça, ben l'équivalent de presque un parcours jusqu'à la Coupe Stanley. Fait que c'est vraiment, vraiment beaucoup de bagages positifs pour cette équipe-là.
T'sais, on regardait tantôt les Hurricanes, ça a été aussi un rouleau compresseur. Là. Les quatre trios, ça n'a jamais été, on dirait, le même trio qui a pris le flambeau d'un match à l'autre.
On avait tous Eric Svechnikov. Robinson avec trois buts dans la série. Là.
Mais le quatrième trio a valu son pesant d'or. William Carrier, Mark Jankowski, Eric Robinson, c'est un trio qui avait une identité simple et claire. L'échec avant, on frappe, on va déranger les défenseurs adverses. Des fois, c'était Nikolaj Ehlers qui portait le flambeau. Dans le dernier match, ça a été Stankoven, Hall et Jackson Blake. Tu as eu Svechnikov qui a marqué un but en prolongation. Donc, c'était d'un trio à l'autre. Défensivement aussi, Jacob Slavin reste un des très bons défenseurs défensifs de la Ligue. Keandre Miller a joué du bon hockey. Mais moi, il y a une statistique qui saute aux yeux que la télé américaine a montrée, je pense, en troisième période. Je viens de mettre à jour la petite statistique. Lane Hudson mène la Ligue nationale là, à ce jour. 483 minutes son temps de jeu. Mike Matheson est deuxième, 472. Nick Suzuki est troisième, 422. Alexandre Carrier, quatrième, 418 minutes. Kaelin Goulet, sixième, 389. Donc, tu as cinq joueurs du Canadien dans le top six. C'est Shea Theodore qui est cinquième. Puis pour trouver le premier joueur des Hurricanes de la Caroline,
hey boy,
tu recules au 22e rang.
T'as des
22e Keandre Miller à 311 minutes. Ça, Keandre Miller, ça s'approche de Jake Evans, 321, Ivan Demidov, 323, Alex Newhook en a plus aussi à 327. T'as pratiquement 10 joueurs du Canadien qui ont eu plus de minutes que le premier des Hurricanes. Ça vient démontrer à quel point la balance là, de fatigue d'un bord, là, t'avais une grosse tonne de briques, puis l'autre côté, t'avais Gilles Latulippe. Donc, c'était pas un combat égal au niveau de la fatigue.
Comme une rose. Je suis même curieux de voir s'il n'y a pas un joueur éliminé en deuxième ronde qui se retrouve dans cette liste-là avant des joueurs des Hurricanes.
Keandre Miller, ben, pas loin, là. Pas loin.
Mais, puis, faut pas oublier.
Ben
une
oui,
chose,
Nick, garde Jackson Lacombe plus de temps de jeu.
Bon, je me disais qu'il peut avoir un défenseur.
Que Keandre Miller. Rasmus Dahlin également à 32 secondes de plus. Keandre Miller.
Tu parles de Rasmus Dahlin. Il ne faut pas oublier une chose. Quand on regarde la performance des Canadiens dans le 7e match contre les Sabres, moi, je les trouvais déjà à terre, la langue à terre, plus d'énergie puis tout ça.
Puis ils ont gagné le premier match contre les Hurricanes, une équipe qui sortait de 11 jours complets sans jouer.
C'est ça. Ça aurait peut-être fallu que ça soit serré, ce premier match-là, parce que ça a tellement été d'un seul côté, ça a été la claque que les Hurricanes avaient besoin pour se réveiller. Si ça avait été plus serré, peut-être que le tricolore aurait pu avoir un petit... qu'on n'aurait pas amené le rythme au même niveau. Là.
Dans ce match-là, le Canadien a dominé en première, mais en deuxième, les tirs, ça a été à l'image du reste de la série. Là, je pense que c'était 13-3 pour les Hurricanes. Dans cette série-là, il y a eu quoi? Une période et demie où le Canadien a eu le contrôle. Là, on peut entrer peut-être la troisième contre les Hurricanes. On a absorbé beaucoup, mais on n'a pas laissé beaucoup de chances de qualité. Là, mais à partir de... Après les quatre buts en première période, ça a été pas mal l'histoire des Hurricanes, cette série-là. Puis c'est ça. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées, c'est un peu normal aussi. Là, puis j'ajouterais à ça le fait que les Hurricanes n'ont pas bougé tant que ça à la date limite des transactions, mais c'est une équipe qui, après toutes les éliminations, mais on ajoutait les morceaux, les correctifs et tout ça, on apportait des changements à la formation pour en arriver à ce produit fini-là. Les Canadiens, il n'y a pas eu de changement à la date limite. On s'est dit, on y va avec cette équipe-là. Je pense que dans ce qui va être à travailler du côté de Kent Hughes, c'est la bonne vieille phrase de Marc Bergevin à l'époque qui était « T'as des joueurs qui t'amènent en série et t'as des joueurs qui te font gagner en série. » Le Canadien, dans la deuxième catégorie, je pense qu'il n'y en avait pas suffisamment. Là, on a beaucoup parlé du premier trio. Ça a été assez difficile pour Cole Caulfield, Slavkovski aussi, mais Slavkovski, je suis prêt à lui donner quelques excuses parce que j'ai l'impression qu'au niveau de la santé, il était peut-être pas à 100%, mais on n'a pas eu chez les Canadiens la profondeur qu'on a vue chez les Hurricanes. Il manquait cet élément d'identité-là peut-être au trio de profondeur qui ont vraiment fait la différence. Là, on peut reculer à la fin de la saison quand il y a eu tous les changements dans les trios et on cherchait à trouver des combinaisons. Ben, on n'a pas trouvé, Martin Saint-Louis n'a pas trouvé la combinaison de profondeur qui allait lui permettre de garder une certaine stabilité dans ses trios puis d'avoir des résultats constants aussi à l'attaque. Fait que c'est une équipe qui a fait le maximum qu'elle pouvait avec les ressources qu'elle avait. Fait que, comme GF a dit, il n'y a pas à rougir de cette prestation.
Il y a Oliver Kapanen aussi qui a frappé un mur en fin de saison et en série. On n'a jamais retrouvé l'Oliver Kapanen d'avant les Jeux olympiques, des premiers mois de la saison, qui a été quand même un deuxième centre, qui a marqué une vingtaine de buts, qui formait un bon duo avec Ivan Demidov. Donc, tu demandais à Jake Evans de remplir ce rôle. Jake Evans est un valeureux guerrier qui te donne de bons services, mais Jake Evans ne deviendra pas non plus un deuxième centre demain matin. T'as Philippe Danault qui a probablement joué son meilleur hockey au meilleur moment en série, mais Philippe Danault est aussi un centre défensif. Donc, il y a un trou à ce niveau-là. T'as un manque de profondeur sur le deuxième centre. Même Alex Newhook a connu de bonnes séries, mais est-ce qu'Alex Newhook est un ailier top 6? tu peux avoir des réserves, mais c'est pas catastrophique. Kent Hughes, Jeff Gorton savent très bien qu'ils ont du travail à accomplir devant eux pour améliorer cette équipe-là. Le noyau est là. C'est une équipe qui a une structure salariale hyper intéressante. Il y a d'autres jeunes aussi qui vont cogner à la porte éventuellement ou qui pourront servir de monnaie de transaction. Donc, ça reste qu'il y a des options pour le CH.
Tu as eu certaines réponses. Est-ce qu'Alexandre Texier est un joueur qui peut te mener plus loin en série? Kirby Dack, est-ce qu'il peut le faire ça? Zachary Bolduc, à l'âge qu'il a, est-ce qu'il peut faire ça? Ce parcours-là va avoir été un apprentissage autant pour les joueurs, pour Martin Saint-Louis comme entraîneur, bien évidemment, mais aussi pour le groupe de direction dans les décisions qu'on va prendre l'été prochain, puis tout ça. Puis, étiez-vous quand même surpris de ne pas voir Martin Saint-Louis tenter plus à soi? On dirait qu'il est revenu avec la formule qui va avoir connu du succès. Puis, écoute, c'était ça cette année, ça a bien été, on y va avec ça pour une dernière fois avant de m'en aller.
Ben moi, je vais être honnête, j'étais un petit peu surpris. Martin aime dire parfois que ses joueurs sont têtus dans des prises de décision. Peut-être que l'entraîneur-chef l'a été aussi. Il a eu une certaine forme d'entêtement, mais il a voulu continuer à miser sur les mêmes soldats. Brendan Gallagher, à mes yeux, aurait pu apporter une énergie différente. Surtout le gros côté émotion. Là, c'est peut-être la fin de Brendan Gallagher dans un chandail bleu-blanc-rouge. On sait à quel point il est aimé de ses coéquipiers. Est-ce que, tu sais, dans le vestiaire, Gallagher aurait probablement parlé avant d'embarquer sur la glace? S'il y en a un qui sait à quel point c'est rare et c'est difficile d'atteindre un carré d'as, Gallagher le sait très bien. Est-ce qu'Arber Jacky, tu sais, je sais que beaucoup de partisans auraient aimé voir Arber Jacky, mais Arber Jacky prendre des décisions rapides contre une équipe qui t'étouffe autant, peut-être ça aurait été difficile. Jaden Struble a quand même donné du hockey intéressant, mais de brasser un petit peu la marmite, ça aurait pu être une solution à envisager. Puis même les changements de trio, chaque fois dans cette série-là, quand Martin a essayé des changements de trio, il le faisait à partir de la deuxième période, non pas en début de rencontre. Puis à ce moment-là, mais c'était déjà 3-0 pour l'équipe adverse. Donc, peut-être un petit peu tard.
Ce que j'ai trouvé le plus curieux, c'est que au dernier match, à 3-0, en deuxième période, il y a eu des différentes combinaisons. Puis après le match, Martin Saint-Louis a dit « Ah, j'ai remarqué, tu sais, on a vu des débuts de belles choses, puis il y avait des choses différentes, une dynamique différente qui fonctionnait peut-être un peu plus que ce qu'on avait. » Fait que je me disais, la période d'échauffement, c'est tel que tel, montre les trios habituels et tout ça, mais là, je me disais, va peut-être revenir avec les trios de la deuxième période dès le début du match. Puis rapidement, on a vu que ça fonctionnait pas en première. Là. C'était les 10 premières secondes, un 2 contre 1. Matheson, je comprends que c'est pas nécessairement les attaquants, mais j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de proactivité là-dedans parce que on a vite senti que ça glissait entre les doigts du Canadien, puis il n'y a pas vraiment eu d'ajustement. Les ajustements sont venus à 4-0 en deuxième période. C'est rendu là. C'était plus nécessaire vraiment d'y aller d'ajustement. Puis quand même, Demidov a montré de belles choses avec Suzuki et Caulfield. Là, quand on le réunit avec les deux autres, il a quand même généré certaines chances. Là. Je dirais pas beaucoup de chances, mais certaines chances. Mais c'est peut-être à ce niveau-là là, que. Puis Martin Saint-Louis disait après le match, j'ai beaucoup appris en série, tu sais, en saison, mais il a mis l'accent sur les séries. Je pense que lui aussi a compris certaines choses, puis c'est peut-être pas la même façon de gérer ton banc en série qu'en saison régulière. Là. C'est beaucoup d'ajustements, beaucoup de réactivité, puis peut-être qu'à ce niveau-là, il y a des améliorations à faire pour Martin Saint-Louis.
Ouais, moi, ce que j'ai à dire, les gens qui sont déçus là, de la tournure de la série puis tout ça, il y a une expression en anglais, là, « moving the goalpost », ça s'appelle « déplacer le but » ou « changer tes attentes pour être déçu au final, pour t'assurer d'être déçu. » Personne n'attendait le Canadien là, à ce moment-ci en finale de l'Est. C'était quoi l'objectif? Si on regarde là, en début de saison, là, quand on regarde les prédictions, c'était quoi? On disait...
Retourner
en série. Prouver que tu es une équipe qui est capable de te rendre en séries éliminatoires. On a fait pas mal plus que ça. On a vraiment fait plus que ça. Il y a tellement de joueurs qui ont grandi. Tu t'es peut-être trouvé un gardien numéro un que tu suspectais pas du tout. Puis c'est pas Fowler, parce que tout le monde parlait de Fowler, Fowler. Soudainement, t'as un Dobesch qui a du cran et qui est capable de jouer en 6-3.
Ouais, mais je retire pas non plus Fowler immédiatement de l'équation pour la course numéro 1. Là. On verra
non,
l'an prochain.
Pas du tout, mais on va avoir une course au numéro 1. Tu comprends ce que je veux dire?
Exact.
C'était pas ça de blanc. Là. Il y a pas si longtemps que ça, on disait peut-être Dobesch, on devrait l'envoyer à Laval. Hein, c'était pas surtout pas le plan là, qu'on voyait là, pour Jacob
Dobesch. Non, mais Marco Marciano a réussi aussi à replacer son gardien, Jacob Dobesch, sur le droit chemin. Mais tu sais, Martin Saint-Louis le disait en conférence de presse, les Hurricanes sous Rod Brind'Amour, on parle de joueurs qui ont joué près de 100 matchs d'expérience en série avant d'atteindre le final de la Coupe Stanley. Là, ce jeune groupe-là, en 2 ans, 19 cette année, 5 l'an dernier, tu arrives déjà à 24 matchs. Le bagage commence à être plus considérable, mais il ne faut pas croire non plus que le billet est automatique, puis c'est à nouveau un retour en finale de l'Est l'an prochain. Là, il va y avoir un nouveau phénomène l'an dernier, celui des attentes, celui des pressions, la pression qui va être beaucoup plus grande. Cette année, on dirait que c'était un parcours, là, c'était du bonbon. Ah, passe à l'étape suivante, passe à l'étape suivante. C'est un peu la formule magique où tu passais, tu sais, ils étaient à 3 victoires d'une présence en finale de la Coupe Stanley sans que le discours, c'était ça depuis le début de l'année. Là. C'était juste un beau parcours magique qui tombait du ciel. Mais là, à partir de la saison 26-27, ça va être une histoire différente. Excuse, vas-y, Guillaume.
Il y a une semaine au mois de novembre, ou c'est-tu novembre ou décembre, en tout cas, je pense que c'est l'hécatombe chez les blessés. On a perdu des joueurs importants, puis à ce moment-là, ça allait pas si bien, puis on se disait « Ah, ben, c'est peut-être la semaine qui vient d'éliminer le Canadien de la course aux séries. » Tu sais, puis on se retrouve 6-7 mois plus tard à 3 victoires de la finale de la Coupe. Là, tu sais, je pense que c'est une équipe qui a beaucoup appris, qui a vécu de l'adversité, puis qui s'est rendue là avec exactement la même équipe, ou presque. Là, il y a eu Dano et Texi qui sont arrivés en cours de saison, là, mais le noyau dur de cette équipe-là est le même qu'on avait au début de la saison, qu'on a vraiment, vraiment, je perds mes mots, là, excédé.
Mais puis en plus, ouais. Guillaume, il n'y a pas une tonne de points d'interrogation, il n'y a pas un grand nuage d'incertitude qui plane au-dessus de la tête de cette équipe-là. Les dossiers à surveiller dans les prochaines semaines, Samuel Montembeault en est un. Probablement qu'ils vont chercher à trouver une transaction pour Samuel Montembeault, lui permettre d'obtenir une chance avec une autre organisation. Je pense que c'est assez clair que ça va passer par Jacob Dobesch et Jacob Fowler. Ensuite, il y a quoi comme autre dossier? Brendan Gallagher, mais Brendan Gallagher est un vétéran. Patrick Laine, on sait que son association avec le Canadien se termine maintenant. Laine est
Kirby Dack.
C'est ça. Il y a Kirby Dack qui lui.
C'est un Kirby Dack, je pense.
Kirby Dack, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu lui proposes un nouveau contrat? Probablement. Question de ne pas perdre un acquis. Mais tu sais, Kirby Dack a eu un petit moment magique contre le Lightning de Tampa Bay. Là, après sa gaffe en prolongation, la foule qui l'a transporté, l'amour qu'il a reçu. Mais Dack finit par redevenir un petit peu Kirby Dack en fin de série. Ouais. Est-ce que ce joueur-là a l'étoffe pour être un top 9 assurément? C'est les questions aussi que la direction se pose.
Non, exactement. Mais ça va être un été qui s'annonce assez occupé pour les Canadiens. Les gars, juste avant de vous laisser aller, est-ce que les Hurricanes vous ont convaincu qu'ils peuvent battre les Golden Knights? Est-ce que c'est la deuxième coupe cette année des Hurricanes avec ce qu'on a vu? Ou... T'sais, les Golden Knights, avec tout ce qu'on a affronté, puis de la manière qu'on a... C'est sûr que l'Avalanche t'a magané, là, mais...
Je trouve que c'est difficile de juger Golden Knights parce qu'on... Ouais. Tortorella est arrivé en fin de saison. Le transfert s'est fait rapidement. C'est une équipe qui connaît présentement un beau parcours en série. Mitch Marner est en feu. Mais je pense que les Hurricanes peuvent l'emporter. Moi, j'ai choisi... Je vais me mouiller, là. J'ai choisi les Hurricanes de la Caroline en 6 contre les Golden Knights de Vegas.
Guillaume?
Oui, moi, m'ont convaincu. Je peux pas dire que j'ai vu beaucoup de matchs des Golden Knights jusqu'ici dans ce parcours.
Ça roule, hein?
Attends, non, c'est ça. On n'a pas beaucoup de temps pour regarder les autres matchs, mais je peux pas... Oui, ça se peut, là, mais je peux pas voir un scénario dans lequel l'équipe de Rod Brind'Amour qui a traversé des difficultés dans les dernières années, qui sait exactement quelle est son identité, qui joue de la même façon à chaque match, à chaque présence. Ça me fait penser aux Panthers de la Floride des dernières années. c'était une équipe qui roulait à quatre trios, trois paires de défenseurs à chaque match, que tu savais exactement ce que tu allais obtenir de la part des Panthers à Floride. Donc, ça me rappelle cette équipe-là. Les Golden Knights, on s'entend, c'est une saison correcte, au mieux, probablement.
Ben, c'est quelle équipe est les vrais Golden Knights? C'est vraiment ça la question. Est-ce que c'est ceux de Tortorella? Ou c'est ceux qu'on a vus avec Bruce Cassidy? C'est difficile à juger. Même avec leur performance en série, on n'a pas affronté des gros canons, puis l'Avalanche était tellement amochée. C'est difficile à juger. Tandis que, comme tu dis, les Hurricanes... En tout cas, ça va être une série aux opposés. Parce que les Hurricanes, c'est tellement une structure solide, tandis que les Golden Knights, t'as beaucoup de gros canons en attaque. J'ai dit Vegas, là, mais Vegas en 6, mais j'aime ce que tu dis. On a-tu fait tout chemin-là? Là?
C'est comme toutes les... C'est les succès récents contre une équipe qui s'est bâtie d'année en année pour en arriver là. Fait que j'ai de la misère à voir l'équipe Cendrillon, je le mets en guillemets, là, les Golden Knights, aller jusqu'au bout dans cette finale-là. Là, je suis allé un petit peu à l'extrême. Là. J'ai mis Hurricanes en 4 parce que c'est un parcours presque parfait jusqu'à maintenant pour les Hurricanes, mais...
T'as juste hâte d'être en vacances,
c'est
moi, je pense.
Sait-on jamais? Je veux dire, tu sais, oui, il y a des gros canons du côté des Golden Knights, mais si les Hurricanes continuent de donner 20 tirs par match, ben tu te donnes une chance de gagner à chaque soir. Puis j'aime beaucoup l'équilibre qu'on a de haut en bas de la formation. Fait que j'y vais comme ça. J'y crois pas tant que ça, mais j'y vais pour le coup de circuit là, en finale. Un bon balayage pour poursuivre sur la séquence sur laquelle ils sont.
Ça serait drôle, ben, ça va permettre aux gens de Montréal de dire ben, écoutez, on a gagné une, nous autres. Hein, personne d'autre l'aura fait en série. Nous autres, on a réussi. Allez, les gars, je vous laisse aller vous coucher quelques heures. Je ne sais même pas si vous allez dormir. Vous allez prendre un bon gros café pour vous réveiller avant d'aller prendre votre vol. Vous allez être de retour à Raleigh pour mardi ou lundi, j'imagine, pour la journée des médias. Fait que les gens vont pouvoir aller tout ça. Comme j'ai dit en intro, là, on va essayer d'avoir un balado de la finale, là, mais c'est pour ça qu'on vient d'en parler un petit peu, là, parce que ça se pourrait que ça soit un peu serré. On vous promet rien, mais on va être là de toute façon. Puis on va être là pendant la finale aussi. On va se parler, même si ça se finit en 4 comme Guillaume le souhaite ardemment. Fait que, les gars, merci d'avoir été là très, très, très tardivement là, pour cet épisode.
Toujours un plaisir. À bientôt.
Chers auditeurs, merci aussi beaucoup à vous d'avoir été là. Et on vous souhaite une bonne finale de la Coupe Stanley. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se reparle très bientôt.